La pensée.
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 D'ailleurs. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast de La pensée d'ailleurs. Une revue transdisciplinaire de sciences de l'éducation qui s'intéresse aux recherches menées autour de la reconstruction de la forme scolaire. Notre prochain numéro, déjà en préparation, aura pour thématique « Transmettre les arts, éduquer par les arts ». Et pour ce premier podcast, nous nous intéresserons à la pratique du chant choral en allant en immersion dans une répétition générale, puis au concert réunissant trois chorales, une cité scolaire publique, un institut médico-éducatif et une chorale d'adultes amateurs. Si ces quelques notes pizzicato de violon vous disent quelque chose, c'est sans doute que vous êtes familier de ce film sorti il y a déjà une vingtaine d'années et dont le compositeur Bruno Coulet a été césarisé pour ses musiques. Les choristes, réalisé par Christophe Baratier et sorti en 2004, nous plonge dans un pensionnat pour garçons où règne un autoritarisme arbitraire.
Je m'appelle Clément Mathieu.
On y suit Clément Mathieu,
musicien raté.
Se définissant comme un musicien raté, monter une chorale d'enfants. Le film met en avant la création du lien entre les personnages et toute la puissance de l'activité sociale et fédératrice du chant choral. Mais revenons à notre concert. Nous sommes à la répétition générale, la veille du grand soir. Les trois chorales ont préparé ce concert depuis un an et se rencontrent aujourd'hui. Le film de Christophe Baratier a amené en salle 8,5 millions de spectateurs. Mais outre le succès du box-office, il a surtout redynamisé le chant choral en milieu scolaire au début des années 2000. Mais Virginie n'a pas attendu ce succès pour se lancer. Professeure d'éducation musicale au collège, chef de chœur de la cité scolaire et organisatrice de cet événement, la chorale occupe une place toute particulière dans sa profession. Le concert de cette année est le 22e qu'elle organise, et comme chaque année, des nouveaux élèves rejoignent la chorale. Virginie rappelle donc quelques consignes.
On entend tout sur scène. C'est pas que les deux micros qui prennent. C'est pas que les deux micros qui prennent le son. Au sol, il y a des micros qui captent tout. Donc dès que vous marchez sur scène, marchez délicatement et ne parlez pas. Ne parlez pas entre les chants. Ne parlez pas à tort et à travers parce qu'on entend tout et vous n'en avez pas conscience. Ok, oui.
C'est parti. C'est parti. Les élèves investissent les planches grinçantes de la scène pour faire un filage complet du concert. Au programme, les trois chorales vont se succéder pour quatre chants chacune et finir avec quatre chants communs. Si le chant choral est aujourd'hui relativement démocratisé en France et bien intégré dans la culture populaire, qu'en est-il de sa place en milieu scolaire? Depuis la réforme du collège de 2016, la pratique du chant choral s'est vue réévaluée. Les vertus du chant ne manquent pas d'être morcelées en compétences académiques. Ainsi, le bulletin officiel de 2016 indique que les chorales permettent aux élèves d'enrichir et de structurer leur parcours d'éducation artistique et culturelle ainsi que leur parcours citoyen. En mobilisant leur sensibilité au service d'une production musicale maîtrisée, en apportant l'expérience de l'émotion
en développant
et de sa
l'esprit
maîtrise,
d'équipe et de collaboration,
en permettant une prise de risque
fédérée,
en chargeant la responsabilité d'une préservation individuelle, en favorisant la vous l'aurez compris, l'institution aime à décliner toute action en une cascade de compétences vertueuses. Mais de manière plus concrète, la réforme de 2016 fixe à 1h30 la pause méridienne pour permettre les activités et clubs et donc aussi la chorale. Un vadémécum plutôt exhaustif mis à jour en 2020 est même disponible sur le site du ministère pour aider les établissements à créer une chorale. Celui-ci indique d'ailleurs qu'en 2019, 71% des écoles et 92% des collèges avaient mis en place une chorale, mais que cela n'était pas suffisant. Mais alors, si les bienfaits du chant sont aujourd'hui largement valorisés par l'institution, est-ce que ce fut toujours le cas ? Remontons pour cela, si vous le voulez bien, à la Troisième République, dont on doit l'institutionnalisation de notre forme scolaire actuelle. Le brillant esprit avant-gardiste de Condorcet évoquait déjà en son temps l'importance des arts dans la formation du citoyen. Sa mise en œuvre fut cependant plus progressive au cours du XIXe siècle. Ce siècle de la musique romantique nous a laissé de beaux noms, comme Berlioz, Offenbach, Debussy, Wagner, Brahms, Saint-Saëns, Bizet, Chopin ou encore Liszt. Le chant, par conséquent, a lui aussi pris une place importante. Alors bon, si aujourd'hui la musique du 19e siècle rencontre le R&B, le chemin jusqu'à ce croisement fut long. Dans un article paru en 2020 sur le blog Gallica de la BNF,
Agathe Candelier, conservatrice à la bibliothèque Sainte-Geneviève, nous rappelle l'instauration de la musique dans les lois Ferry de 1882. Elle écrit
« En 1878, dans une conférence sur le chant dans les écoles, l'inspecteur de l'enseignement primaire Albert Dupaigne affirme l'universalité de la musique, et par là même, sa capacité à transmettre savoir et idées, qu'on la comprenne ou non. »
Puis elle ajoute plus loin.
Dans ce contexte, la musique devient un auxiliaire de la morale. Les élèves sont encouragés à mémoriser un certain nombre de chants que l'on retrouve à partir des années 1890 dans les manuels de Maurice Bouchor et Julien Tiersault. Ces chants exaltent les valeurs morales et civiques sous trois angles. Le présent studieux de l'écolier, son métier futur, ses valeurs nationales et républicaines.
À cette même époque, on pouvait trouver le chant jusque dans les asiles psychiatriques, comme le montre ce rapport de Jules Amédée Bullard, médecin-chef de la division des femmes de Maréville en 1871. Il écrit
« Grâce au zélé et intelligent concours de M. Vautrin, l'instituteur de l'asile, j'ai fait participer mes aliénés à la bienfaisante influence de la musique et nous avons pu ainsi à plusieurs reprises, de concert avec mes aliénés hommes, chanter plusieurs messes en musique ou intercaler des chœurs dans les offices ou aux processions de la fête Dieu. Je n'ai pas besoin d'insister beaucoup sur les effets salutaires, hygiéniques et moralisateurs de ces divers exercices sur le moral, le bien-être physique et l'état mental de mes chers malades. »
Ainsi donc, le chant était employé comme outil axiologique, s'intégrant donc parfaitement dans la forme scolaire telle que le démontrait le sociologue Guy Vincent dans ses travaux, à savoir l'école comme entreprise de moralisation. Mais la pratique du chant amenait bien d'autres vertus. Dans cet extrait d'un mémorandum de 154 articles de la Commission d'hygiène des écoles pour le ministère de l'Instruction publique en 1884, on peut y lire la recommandation suivante. L'enseignement du chant mérite à tous égards d'être encouragé. C'est une gymnastique des poumons et c'est aussi un de ces mouvements rythmés dont l'influence est certainement salutaire. Mais tandis que la gymnastique est tout particulièrement utile aux adolescents, l'enseignement du chant est d'autant plus profitable qu'il est donné plus tôt et est plus nécessaire encore aux filles qu'aux garçons. Car dans les pays où les mères chantent en berçant les enfants, on ne voit plus surgir de générations anti-musicales. Et préciser également qu'il faut s'abstenir de faire chanter les garçons pendant la mue de la voix. À la lecture de ces extraits, on ne peut pas s'y tromper, nous sommes bien au 19e siècle. Même si ces recommandations semblent aujourd'hui obsolètes, voire risibles, il en est une qui trouve un tout autre fondement. Une recommandation est faite indiquant que les cours doivent être faits par les instituteurs et non par les artistes, qui ont tendance à faire passer la théorie avant la pratique. On touche ici un point didactique majeur dans l'histoire des pratiques enseignantes, qui est également constitutif d'une part du rapport au savoir qu'entretient notre société, et d'autre part de la relation maître-élève qui se construit.
Il faut vite choper le micro. D'abord Morgane. D'abord, Sébastien C. Vive Operley. Enchaînera Blandine qui est juste derrière. Et Sylvie là-bas. Ok. Eléa, tiens-toi prêt. Et Maëline, tenez-vous prête. Là, l'une à côté de l'autre, ça ne va pas être possible. Il faut que Maëline, tu viennes ici. Viens tout de suite dès le début du medley. Voilà, comme ça tu seras en position pour faire ton saut. D'accord, Maëline? Voilà, tu viendras sur le micro là, d'accord ? Micro 1, ça c'est le micro 1, là-bas c'est le micro 2.
On le voit ici, l'enseignante dirige. Elle ne donne non pas des conseils, mais des consignes. Ainsi, chacun sait ce qu'il a à faire. Les solos doivent s'enchaîner sans temps mort ni hésitation. Mais comment en arriver là ? Comment amener tous ces enfants dans la même direction ? Le rôle d'un chef de chœur est primordial dans l'exercice du chant choral, car non seulement il dirige, mais il régule. Il bat la mesure. On pourrait même dire qu'il donne la pulsation cardiaque permettant de faire battre le chœur tout entier. Harmoniser les voix, trouver le juste équilibre, c'est un travail d'orfèvre qui nécessite de la patience et de la discipline. Il faut voir le regard de chaque choriste braqué sur le chef, suivant ses consignes et ses gestes dans une confiance totale. C'est ce qui amène à interroger un autre aspect de la forme scolaire, le rapport maître-élève.
On pourrait sourire un peu, avoir le visage un peu ouvert, parce que c'est triste, hein. Ce que je vois, c'est pas... Allez, égayez-vous avec votre visage, ouvrez. Les hommes, c'est pas ça du tout, hein. Vous n'êtes pas dedans.
On l'entend ici, Robert, le chef de chœur de la chorale d'adultes composée majoritairement de sexagénaires, n'est pas content. Il sermonne alors ses troupes. Celles-ci sont en retour très attentives aux remarques et expriment d'une seule voix, au nom du collectif, leurs difficultés.
On pourra le revoir après. On va faire le dernier.
C'est une forme de négociation du contrat didactique. Il faut parvenir à se comprendre. Pour paraphraser cette situation, les choristes pourraient dire « Dis-nous, toi, chef d'orchestre, comment pouvons-nous, instrument-outil, servir ta création ? Et comprends par la suite nos difficultés pour nous aider à les surmonter. » Le chant choral appelle à une soumission libre et consentie. Chacun vient de son plein gré et tout le monde reconnaît la légitimité et l'autorité du chef de chœur. Le travail est donc bien coopératif et le chef, qui tient rôle d'enseignant, peut se consacrer pleinement à la résolution des difficultés. Ces difficultés peuvent être encore plus grandes pour des enfants à besoins particuliers, comme en témoigne Coralie, l'éducatrice spécialisée et chef de chœur de l'IME.
Et pour le coup, je dirais qu'il faut quand même une grande énergie. On est obligé de faire beaucoup de signes pour les amener avec nous, en fait. Et cette énergie qu'on a, nous, on doit essayer de leur transmettre au maximum. Et c'est ça qui leur donne une confiance et qui permet justement d'avoir toute cette énergie sur scène. Après, ils ont une mémoire qui est quand même plutôt impressionnante. Du coup, la mémorisation des textes passe très rarement par la lecture de textes. C'est en nous entendant et en répétant plusieurs fois le morceau qu'ils intègrent en fait la chanson d'eux-mêmes grâce à cette mémoire auditive qu'ils ont. C'est une espèce de don, on va dire, mais c'est ça.
Un concert réussi est donc le fruit d'un long travail en amont et d'une répétition régulière et hebdomadaire des mêmes chants. L'importance des règles, la répétition d'exercices, la relation maître-élève, on retrouve bien dans la pratique du chant choral plusieurs traits de la forme scolaire. Mais alors, comment expliquer cela ? En matière d'enseignement du chant choral à proprement parler, il est une méthode qui eut un succès tout particulier durant le 19e siècle, la méthode Wilhelm. Nous ne parlons pas ici de la pédagogie d'Edgar Willems qui est postérieure autour des années 30, mais bien de Wilhelm, ou de son vrai nom, Guillaume-Louis Bocquillon. Né le 18 décembre 1781 et mort le 26 avril 1842, Wilhelm fut l'instigateur du chant choral au 19e siècle. Inspiré par les écoles mutuelles, il développe sa méthode en divisant notamment l'enseignement musical en différents degrés. Dans le dictionnaire de la pédagogie Ferdinand Buisson, Charles Desfaudon raconte.
En octobre 1833, Wilhelm complète et généralise son œuvre par la création de l'Orphéon, c'est-à-dire en constituant des réunions périodiques des enfants des différentes écoles pour le chant en commun. L'idée ne tarda pas à être appliquée aux cours du soir destinés aux apprentis et aux adultes ouvriers. Des classes spéciales de chant furent ainsi créées non seulement dans les divers quartiers de Paris, mais dans les départements.
Et conclut en disant que la France entière fut conquise à l'étude de la musique vocale.
Il est où mon mini pinceau ?
Tu tiens, toi ?
Oui, qui ? Attends, il est où mon pinceau ? Il est là-bas, chez Claudine.
Ça y est, le grand soir est arrivé. En coulisses, on s'agite. Les jeunes filles de 6e et 5e terminent de se préparer dans les loges sous la scène du théâtre pendant que les spectateurs s'installent confortablement sur les strapontins en velours rouge. Le stress est palpable, mais les sourires sont là. Les enfants vont vivre enfin leur première expérience de la scène sous le grill des spotlights. Tous ensemble, collectivement, unis dans le même but. C'est un des derniers éléments que nous pourrons évoquer, la puissance du lien fédérateur et rassembleur du chant choral. Cet élément est particulièrement visible pour les enfants de l'IME dont on sait la difficulté qu'ils éprouvent à s'intégrer en contexte ordinaire. L'expérience du chant choral est particulièrement salutaire pour eux, comme nous le raconte Coralie.
Le chant est un médiateur en fait pour eux dans la création du lien avec l'autre complètement. C'est-à-dire qu'on a souvent des enfants qui ont du mal à créer des liens entre eux. Souvent les relations ne sont pas toujours adaptées et le fait de pouvoir être en temps de pause et d'avoir cet élément commun qui est le chant, ça leur permet justement d'avoir un moment où ils peuvent passer du temps entre eux en utilisant ce chant pour créer de la relation en fait, tout simplement.
Dans un article paru en 2015, la psychologue Cécile Tricot et le psychiatre Raphaël Gourevitch s'intéressent à un atelier de chant choral mené dans un dispensaire psychiatrique. Ils écrivent
« Le repli sur soi est un symptôme fréquent des sujets souffrant de troubles psychiques. Et beaucoup d'entre eux vivent dans un très grand isolement. Le lieu de soins constitue parfois le seul environnement social. »
Comme l'explique l'article, le sonore est une manière d'accéder à l'altérité, à la rencontre avec soi et avec l'autre. De ce mélange de voix naît une communion, une résonance des âmes qui s'envolent, se croisent, s'harmonisent pour former une unité vocale à la fois plurielle et singulière. Nous n'avons qu'effleuré ici toute la richesse de cette activité, qui, bien qu'empreinte de plusieurs caractéristiques de la forme scolaire, offre néanmoins des pistes de réflexion pour sa reconstruction. Merci à toutes et merci à tous d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à partager et consulter nos autres numéros disponibles sur notre site internet La Pensée d'ailleurs. Nous espérons que cet épisode vous aura plu et quittons-nous avec cette citation « Ce n'est pas en ouvrant la gorge d'un rossignol que l'on découvrira le secret de son chant. » Marcel Pagnol.